Bonjour à tous. Merci à Déborah Furet de m'avoir associé à cette journée. Alors, je vais intervenir sur le jeu en général et pas spécifiquement sur la question du numérique. C'est un choix qui est justifié à la fois, je dirais, par mon parcours. C'est-à-dire on va jouer effectivement sur des aspects assez polyphoniques. Aujourd'hui, mon domaine, je dirais, de connaissances sociologiques, c'est au sens large celui des expériences de la fiction et de manière plus précise celui des jeux de simulation et de l'univers du jeu de société, aussi bien dans le numérique que dans le jeu traditionnel. Et de ce point de vue-là, ça me paraît intéressant de reprendre la question du ludo-éducatif, pardon, non de façon prospective, mais avec ce que peut être l'école et le système éducatif en 2015, c'est-à-dire des situations pas toujours très équipées en moyens numériques, hein, des enseignants qui me disent « bon, moi, je veux bien utiliser tous les objets communicants que vous voulez, mais pour l'instant, j'ai 3 PC sous XP qui sont au fond de ma classe ». Donc voilà, je dirais, l'école en 2015 sans brosser quand même un tableau trop catastrophiste. Par ailleurs, cet univers du jeu de société, entre guillemets, traditionnel, c'est en fait un vivier très innovant. Et de ce point de vue-là, pour rebondir sur ce que disait Philippe Lemoine, la France est plutôt parmi les champions du monde. Dans la création de jeux, je dirais, les auteurs français ont une reconnaissance aujourd'hui très forte. On a, je dirais, un fleuron industriel, hein, Asmodée pour ne pas les citer. Et d'une façon, plus destinée à ouvrir la discussion, ce qui m'intéresse dans cette intervention, c'est de vous engager à penser, à réfléchir à la question de la réticence, voire de l'animosité qu'il peut y avoir à l'égard du ludo-éducatif, d'où le titre un peu sémantique que je propose, donc ludo-éducatif, pléonasme ou oxymore. Alors, à titre introductif, et ça va peut-être faire bondir des gens, mais c'est un peu l'idée, je vais citer justement des propos, je n'en invente aucun dans ce qui sera cité, qui viennent de personnes que j'ai sélectionnées, pas pour leur représentativité, mais parce qu'elles ont un pied dans l'univers du jeu, parfois de simples passionnés, parfois des professionnels, et un autre pied dans le monde éducatif. Ici, Bruno Feduti n'est pas un inconnu parfait, c'est quelqu'un qui a plusieurs dizaines de jeux édités, qui a notamment été l'auteur du best-seller Citadel, donc qui est un hit planétaire, je dirais, dans le monde du jeu de société. Et voilà ce qu'il écrit sur son blog, hein, la volonté de faire des jeux éducatifs part de l'hypothèse, en partie discutable d'ailleurs, que les jeunes n'aiment pas apprendre, mais qu'ils aiment tous jouer. On va donc les faire apprendre en leur faisant croire qu'ils jouent. C'est oublier d'une part que personne, pas même un Jones, n'apprécie d'être pris pour un con, et d'autre part que gratuité et vanité sont des composantes essentielles du jeu. Si l'on joue dans un but autre que se faire plaisir en s'immergeant dans le jeu, on ne joue plus vraiment, et le plaisir a tôt fait de disparaître. Si l'on croit apprendre sans travailler, on se fait de confortables illusions. Alors il y aurait toute une explication de texte à mener, je l'utilise simplement à titre, je dirais, apéritif, pour vous donner un avant-goût de ce qui va venir. Alors, on va traiter donc l'aspect pléonasme, puis l'aspect oxymore. Bien entendu, quand on dit ludo-éducatif, beaucoup de nos contemporains entendent un pléonasme, au sens où tout jeu est facteur d'apprentissage. Je vais passer relativement rapidement sur cette première partie, en rappelant quels sont les principaux arguments qui sont avancés aussi bien dans les familles qu'à l'école ou dans des milieux, je dirais, périscolaires, en faveur donc des usages éducatifs du jeu. Le premier, c'est que le jeu constitue un format d'expérience qui porte des apprentissages propres. C'est notamment un format d'expérience cognitive qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde n'est pas capable d'entendre une règle du jeu jusqu'au bout. Dans le cas d'un jeu de société, vous avez beaucoup d'enfants, voire d'adultes, qui craque au bout de quelques minutes en disant « bon, allez, on commence et puis on verra bien ». De la même façon que dans l'univers du numérique, tout le monde ne va pas au bout d'un tuto et préfère procéder par réitération, par essai et erreur, ce qui est une méthode d'apprentissage en soi. L'apprentissage stochastique est tout à fait légitime, mais suppose quand même de s'armer d'une certaine patience, je dirais, pour court-circuiter ce qui a été prévu par les développeurs. Le jeu est également une école de la gestion des affects, au sens où on va apprendre, bien entendu, à participer, à perdre, à gagner de façon à ne pas piétiner ses adversaires, également à persévérer. Et puis enfin, c'est autant que possible une expérience sociale, ce qui peut être, au dire de pas mal de pédagogues au sens large, hein, qui peuvent être des ludothécaires, des enseignants, des animateurs, un gros avantage du jeu traditionnel, au sens où on place les gens autour d'une table, on continue d'avoir ce type d'interaction. Je ne dis pas que le numérique exclut ces possibilités-là, mais pour l'instant, je dirais, l'expérience du numérique reste une expérience relativement solitaire. L'autre avantage évident, particulièrement en France, où on aime mettre les élèves à l'épreuve et on aime avoir des épreuves qui les habituent à passer des épreuves. Tout l'argumentaire pour justifier la persistance du brevet des collèges, c'est ça, ils apprennent quand même à se préparer au bac parce qu'on apprend à gérer le stress des épreuves. Trouvez-moi un collégien qui ne sait pas gérer le stress des épreuves en France. J'aimerais faire sa connaissance. Bien entendu, dans un système où tout est centré sur la notion d'épreuve, comme le système français, en rajouter une de plus ou en enlever une paraît relativement anodin. Néanmoins, le jeu, parce qu'il produit un espace-temps dédié avec un dispositif, des objets, des règles qui sont tous construits par rapport à l'étalonnage d'une certaine compétence et par rapport à la possibilité de répéter l'épreuve, donc une reproductibilité fondamentale du jeu, habitue ses utilisateurs donc à entrer dans des formats d'épreuve différents, donc s'ils sont utilisateurs d'une pluralité de jeux. Troisième volet, bien entendu, le jeu permet d'apprendre des savoirs disciplinaires qu'on va dire embarqués ou que certains vont qualifier de dégâts collatéraux dans les entretiens. C'est-à-dire que au passage, on apprend à compter, on apprend à rendre la monnaie, on apprend à lire à haute voix, on apprend à repérer des dates si on joue à timeline, par exemple. C'est-à-dire qu'on va avoir des répercussions directe en termes de performance scolaire, même si ça n'est pas la finalité explicite du jeu dans lequel on s'est embarqué. Trouvez-moi effectivement un enfant de 8 ans qui est capable de vous citer les 7 merveilles du monde antique. En général, c'est qu'il a joué à Seven Wonders avec ses amis ou avec ses parents. Enfin, les jeux au pluriel, et j'insiste sur cet aspect, sont facteurs de ce que le psychologue et anthropologue Gregory Bateson appelait l'apprentissage secondaire, le deutéro apprentissage, c'est-à-dire la capacité, le saint graal des pédagogues, le fameux apprendre à apprendre, c'est-à-dire que entrer successivement dans une pluralité de jeux favorise une certaine plasticité cognitive qui va faire, et qu'on va retrouver d'ailleurs chez certains mammifères, les rats de laboratoire posent ce problème-là, vous faites faire 6 expériences différentes à un rat, il sera meilleur pour appréhender la 7e que son voisin de cage, entre guillemets, qui n'en sera qu'à sa première. C'est-à-dire qu'il aura aussi appris à apprendre au fil de ces expériences-là. Si j'aborde maintenant la question de la tension oxymorique, l'alliance de mots contradictoires qu'il peut y avoir donc dans l'expression ludo-éducatif, je vais avoir des critiques qui vont porter sur les gammes ludo-éducatives les plus connues. Je précise que, en tant que sociologue, je recueille des propos de personnes qui parfois admettent qu'elles ne connaissent pas les gammes. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de jeter un seau d'eau froide à ceux qui, dans cette salle, innovent en justement proposant des idées ludo-éducatives nouvelles. Il s'agit de travailler sur les représentations actuelles qu'on va recueillir quand on pose la question « qu'est-ce que ça vous dit aujourd'hui l'expression ludo-éducatif ?» D'abord, il y a le sentiment, et là, on a une cible particulière qui est le jeu « quiz ». C'est-à-dire tous les jeux qui sont sous la forme question-réponse, typiquement les jeux type playback, etc., qui vont être considérés, décrédibilisés comme étant producteurs de singes savants, c'est-à-dire une pédagogie relativement datée, des savoirs qui vont être simplifiés pour être formulés sous la forme de réponses, qui vont être par ailleurs très fragmentés. Je me rappelle dans les années 80, par exemple, les critiques qui circulaient dans le milieu du jeu à propos du Trivial Pursuit, où on nous disait, voilà, les gens, pour avoir le fameux camembert orange sur les sports, vont être capables de vous citer tous les médaillés de Moscou 80 ou de Los Angeles 84, sans savoir que dans le premier cas, on a beaucoup de médaillés soviétiques parce que les États-Unis boycottaient, et dans le cas de Los Angeles, c'était la situation inverse. C'est-à-dire, si on décontextualise, on apprend simplement de façon relativement mécanique des réponses sans avoir les éléments de compréhension plus larges. On peut très bien, nous dit Lucie par exemple, je ne vais citer que mes répondants que par leur prénom, on peut très bien avoir un but éducatif dans des formes super ludiques. Malheureusement, beaucoup d'acteurs ne voient le côté éducatif que dans le quiz. C'est là-dessus qu'il faut éduquer les responsables éducatifs. Deuxième aspect qui en découle assez directement, la notion d'éducatif dans ces jeux est réduite donc à la situation de mise à l'épreuve, c'est-à-dire qu'on a une confusion entre les fins et les moyens de l'éducation. L'éducation est conçue de façon très restrictive comme la capacité à passer des épreuves, à fournir des réponses, au lieu d'être ce qu'elle est censée être, c'est-à-dire une formation plus globale du citoyen, du futur consommateur, du futur adulte au sens large. Et donc cette forme de réduction va avoir notamment un effet, alors c'est notamment ce que défend Nathaniel, de faire porter la responsabilité d'un éventuel échec sur l'élève plutôt que sur l'enseignant. Enfin, et là je reviens au propos initial de Bruno Feduti, il y aura tromperie par rapport à certains apprentissages, par rapport à leur réalité réelle lorsqu'on les aborde pour la première fois, lire des livres longs, classiques, entrer dans des raisonnements mathématiques un peu longs qui font intervenir du chaînage, qui font intervenir des formes hypothético-déductives un peu sophistiquées, suivre l'actualité, hein, quand on s'intéresse au secondaire ou au supérieur. On sait à quel point ces pratiques sont nécessaires pour atteindre une certaine excellence scolaire et à quel point, là, de ce point de vue-là, l'offre ludo-éducative ne parvient plus à remplir le contrat, c'est-à-dire qu'on entre dans des apprentissages qui ne sont pas du même type de format, qui ne supposent pas simplement d'entrer dans une forme d'entraînement telle que les produits les proposent. Si maintenant je m'adresse au volet, entre guillemets, joueur de mes répondants, alors ce sont des critiques qu'on va pouvoir retrouver si les verbatims vous intéressent, dans un fil de discussion qui a été lancé dans la communauté des ludistes francophones sur Facebook. Donc, d'abord, l'étiquette ludo-éducative, qui a toutes les vertus, je dirais, institutionnelles de légitimation auprès des professionnels, etc., va avoir, au contraire, un effet repoussoir, typiquement chez Arnaud. Pour moi, un jeu qui porte l'étiquette éducatif est fait par des pédagogues, et avant d'être un jeu, est un dispositif éducatif. Ce qui pose problème, c'est dès lors le présenter comme un jeu ou comme un moyen de se défendre, parce que ce sera un mauvais jeu. Citation plus équilibrée, je dirais, de Sophie, qui travaille pour la société Didacto, et donc qui est amenée à intervenir justement dans des fêtes du jeu, dans des ludothèques, dans le milieu scolaire, etc. Nous nous heurtons effectivement parfois à des gens qui ne voient que le mot éducatif et croient nos jeux réduits à du matériel d'apprentissage de type scolaire. Il y a le sentiment également que le jeu est dénaturé, c'est-à-dire qu'il y a une instrumentalisation à travers tous les termes très à la mode de ludicisation, de gamification, etc., de ce que doit être le jeu. Ludo-éducatif, c'est un terme surtout utilisé, donc ça c'est le témoignage de Pierre, par la communauté économico-ludique, lui-même ajoute un point d'exclamation entre parenthèses, qui souhaite vendre des outils normalisés pour gagner des sous. Si on met juste ludique, les établissements d'éducation, famille, pourront rechigner à acheter quelque chose qui n'appartient qu'à l'oisiveté ou au temps libre. En accolant l'éducatif, on rend possible la vente d'un produit. Il y a également, si on entre plus dans les systèmes de jeu, la critique d'un traitement relativement indolore ou lénifiant de l'échec, ce qu'on va avoir notamment dans les gammes premier âge type Adibouchou, c'est-à-dire, bon, tu t'es trompé, mais c'est pas grave, et à la limite, tu ne t'es pas trompé, il suffit juste que tu essayes autre chose. Et par ailleurs, une réduction de la dimension collective du jeu à simplement la juxtaposition des joueurs quand elle existe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'interaction, et la question de savoir qui gagne, qui perd, qui donne quand même l'essentiel de son piment à l'expérience ludique, est largement mise entre parenthèses. D'où le sentiment qu'on va s'ennuyer si on n'a pas effectivement la perspective de gagner ou de perdre. Enfin, il y a dans les chez les amateurs de jeux, alors qui peuvent être jugés comme minoritaires, mais qui sont en fait extrêmement moteurs dans la diffusion de ces produits-là sur le terrain, dans des soirées-jeux, dans des animations en ludothèque ou en école dans les temps de l'après-midi, le sentiment que ces jeux ont des systèmes simplistes. Je reprends Pierre, donc, qui est à la fois enseignant et critique pour le magazine Plateau. Les élèves ne sont pas dupes, mais entre ça et une page d'exercice, point de suspension, donc il y a le sentiment que les élèves font face à une, j'arrive à la conclusion, font face à une offre ludique extrêmement variée, extrêmement sophistiquée, avec une industrie qui gagne de plus en plus d'argent et donc qui a de plus en plus les moyens de se payer des bons game designers, des bons illustrateurs, etc. Et face à cela, donc une offre ludo-éducative qui a du mal, je dirais, à jouer dans cette cour-là. Donc, et oui, dernier aspect dans cet aspect oxymorique, le regret de la part de beaucoup d'adultes qui sont passionnés de jeux et qui déplorent le manque de culture ludique des adultes, c'est-à-dire qui disent « le problème en France, c'est que les parents refusent souvent de jouer ». J'ai personnellement le souvenir d'avoir offert des jeux de société dans des anniversaires, où les parents me disaient « mais il ne sait pas encore lire, comment il va faire avec la règle ?» On a envie de leur dire « mais Bourik, tu vas lire la règle avec ton enfant, c'est un peu ton boulot de parent, justement, se poser la question des anxiétés parentales. » Peut-être que lire une règle avec ses enfants fait encore partie du cahier des charges qu'il y a quand on conçoit et qu'on élève un enfant. Alors, si je conclue, et j'espère avoir stimulé des éléments pour la discussion, donc on constate que ces propos sont bien entendu tous à relativiser au sens où il y a des malentendus, des stéréotypes persistants entre les mondes du jeu et les mondes de l'éducation. Je ne prétends pas les avoir couverts, bien entendu, en totalité. Par exemple, Mélanie qui nous dit « je n'ai jamais joué avec des jeux catégorisés ou recommandés par le ministère ». Qui, donc, voilà, autant transmettre ces propos. Par ailleurs, alors il ne s'agit pas de baisser les bras, il s'agit de constater que de nombreux enseignants, ludothécaires, parents, animateurs, etc., utilisent ce qu'ils appellent eux-mêmes de vrais jeux, c'est-à-dire des jeux auxquels tu as envie de jouer chez toi. C'est leur définition du vrai jeu, ce sont des jeux qui ont un intérêt suffisant en termes ludiques pour qu'on ait envie de les sortir des étagères, et qui critiquent par conséquent les jeux qui prennent la poussière, les offres ludo-éducatives qui prennent la poussière dans les ludothèques ou dans les disques durs. Et donc, nous trouvons par exemple témoignage d'Antonin, dans le jeu éducatif, entre guillemets, nous trouvons des monstres d'ennui mortels sur la grammaire, les maths, tandis qu'en installant le jeu comme une fin et la pratique éducative comme un dégât collatéral, on se retrouve avec des enfants de 8 ans qui apprennent à compter et à prévoir 3 coups à l'avance en jouant à Splendor. Au final, la question de la place du ludo-éducatif dans la cité pose la double question des appréhensions médiatiques et politiques du jeu en France. Appréhension médiatique. Je prends par exemple un magazine culturel comme Télérama. Nous avons chaque semaine donc, des rubriques dans Télérama, dont une rubrique sur le jeu vidéo, pas de rubrique sur le jeu de société. De la même façon, dans le guide d'achat de Noël de Télérama, qui est un document quand même assez conséquent, il y a de temps en temps un jeu de société qui est le jeu quiz produit par Télérama. On n'en a pas d'autre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des auteurs de jeux de société français qui sont reconnus internationalement et qui sont des inconnus en France. Des gens comme Antoine Boza, comme Bruno Catala, etc., je pourrais vous en citer des dizaines, sont plus connus en Allemagne qu'en France. Et par ailleurs, d'un point de vue politique, on a effectivement cette demande très forte d'implantation du numérique, sachant qu'aujourd'hui, beaucoup d'enseignants aimeraient simplement être légitimés dans leur pratique déjà du jeu de société, qui leur semble être un élément de culture générale, c'est-à-dire faire découvrir des jeux comme Dixit, comme Seven Wonders, etc., qui sont des jeux de création française, au même titre qu'on fait découvrir des grands films ou des grands romans, leur semble être un usage respectueux de ce qu'est le jeu, respectueux de ce qu'est l'enfant. Je vous remercie.
Bonjour, je suis Claudia Kespiyayi, je suis effectivement fondatrice et gérante, dirigeante de la société Cap Enfant, qui est un groupe de crèches. Alors je n'ai absolument pas l'habitude de me retrouver dans cet environnement, donc je vais être pratique et je vais vous parler de notre expérience et de ce que nous avons, nous, mis en place au sein de nos crèches et de ce que nous développons et pourquoi nous le faisons. Donc nous touchons effectivement au numérique dans le monde de la crèche. C'est pourtant quelque chose qui n'a pas, qui n'est pas très présent. Et je dirais dans un certain sens, heureusement, puisque comme l'intervenante au début le disait, et l'intervenant également, il est extrêmement important de garder la relation humaine vis-à-vis de l'enfant, et c'est au travers de la relation humaine qu'il va se développer, qu'il va se construire, qu'il va acquérir de la confiance, qu'il va acquérir de la curiosité dans un premier temps. Donc il n'est pas question de mettre une machine à la place de cette relation humaine qui vraiment abîmerait sa construction psychologique, physique et émotionnelle et affective. Pour autant, nous sommes partis d'un postulat en montant la crèche Cap Enfant il y a de cela 10 ans, qui était de dire nos enfants devront être plus à l'aise dans le monde international que nous aujourd'hui, et ça commence dès le berceau. Et donc si ça commence dès le berceau, ça commence à la crèche. Et comment mettre cela en place? Et de ce point de vue-là, nous sommes partis sur un sens qui n'est pas tellement utilisé, puisque c'est l'ouïe, c'est le premier sens qui est développé in utero, et c'est le premier sens qui est complet à la naissance de l'enfant, puisque l'enfant a une capacité auditive maximale qui décroît assez rapidement. Il y a plusieurs paliers. Il y a un palier vers 3-4 ans, un autre palier vers 7 ans, et on admet classiquement que au-delà de 7 ans, un enfant n'apprendra plus de langue étrangère sans avoir l'accent de sa langue maternelle. Mais de 0 à 7 ans, il a cette capacité d'écouter. Et donc, nous sommes partis sur cette idée de développer cette écoute. Et développer cette écoute, c'est développer cette capacité d'écoute, c'est donc faire référence à la construction de l'oreille. Et la construction de l'oreille réagit à une multiplicité de fréquences sonores, mais ces cils qui sont à l'intérieur de l'oreille se sclérosent, je schématise un peu, se sclérosent au fur et à mesure de l'âge. Et donc l'enfant perd la capacité auditive. Et bon, bah, très classiquement, vous entendrez probablement moins facilement un dialecte hindi qu'un enfant de 6 mois. Ou autre chose qui est classiquement admis, c'est qu'un musicien entend plus de son qu'un non-musicien, parce que justement, il a eu le travail de son oreille. Pardon. Et donc, l'idée, c'était de proposer aux enfants un maximum de sons différent de ce qu'il entend classiquement dans son environnement. Et ces sons, ce n'est pas seulement des sons qu'il entend en France, mais des sons et donc des musiques qu'il peut entendre dans d'autres pays et dans d'autres environnements. Et l'idée, c'était de créer, donc, à partir de l'ouïe, mais aussi ensuite en le déclinant sur les autres sens, un environnement comme un enfant pourrait trouver. Alors, si on reste en France, en Bretagne ou en Provence, et si on va dans d'autres pays, en Afrique du Nord, au Japon, en Amérique du Sud, au Brésil, etc. Voilà. C'était le point crucial. Alors, bien sûr, tout ça est basé sur les fondamentaux de l'accueil collectif. Ça veut dire que d'abord, pour permettre à l'enfant de découvrir son environnement, un environnement sonore, il faut d'abord qu'il soit en sécurité affective. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il se sente rassuré dans l'environnement dans lequel il se trouve, avec les adultes, dans l'espace. Ça veut dire que ça va passer par l'autonomie de l'enfant, par le travail sur la socialisation, par le respect du rythme individuel, enfin tous les fondamentaux de l'accueil collectif, sans quoi l'enfant ne sera pas en capacité de s'adresser à d'autres, et particulièrement aux adultes, et d'aller vers les autres. Une fois que ce socle est bien établi, c'est-à-dire que l'enfant se sent en confiance, il est bien chez nous, il est bien dans la crèche, il a reconstitué son environnement, il est en sécurité. Alors là, il est dans les dispositions pour apprendre et pour regarder vers l'extérieur et pour découvrir son environnement. Et c'est à ce moment-là qu'il va bénéficier au maximum des jeux qui vont être proposés. Et donc, parmi ces jeux, nous avons inventé et dans le monde de la crèche, nous sommes les seuls, un outil pédagogique qui s'appelle la bulle musicale. Et la bulle musicale, c'est un espace de 12 mètres carrés. Alors, il y a une petite vidéo, on va peut-être pouvoir la regarder, de 2 minutes, qui présente la bulle.
L'esprit, au sens large, dans lequel Cap-en-France développe, correspond exactement à ce que j'aimerais voir promouvoir un peu partout au niveau des crèches.
La bulle musicale, c'est un outil pédagogique que nous avons développé, qui est breveté au niveau international et qui a pour vocation de permettre à l'enfant de découvrir des sons, mais en étant acteur. On va lui faire découvrir les langues, on va lui faire découvrir des comptines, mais aussi des musiques, les instruments, les rythmes.
Ça correspond bien à nos enfants d'aujourd'hui, qui sont beaucoup sur le toucher avec les tablettes. Elle ne sait pas marcher, mais elle sait danser. Donc elle se met debout, elle se tient et elle danse, elle danse. Elle a un rapport très proche avec la musique. Je pense qu'elle l'a découvert ici.
Ils sont plus observateurs, ils sont plus à l'écoute et plus concentrés. Les parents nous disent que c'est énorme, l'enrichissement, tout l'éveil que ça peut apporter à leur enfant.
Donc le principe, c'est que les enfants rentrent dans cette bulle et touchent ces parois, ces parois, et ça leur permet de déclencher ces sons. Alors ces sons vont donner lieu à des jeux, à des lotos sonores, à des découvertes, donc soit lors d'activités dirigées, donc avec des éducateurs de jeunes enfants, auxiliaires de puériculture, professionnels, etc., soit en activité libre, c'est-à-dire qu'ils rentrent et ils sortent de la bulle musicale. Et là-dedans, ils découvrent une multiplicité de sons, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il va les créer lui-même, il peut même les superposer, Ça développe cette capacité en fait d'écoute principalement, qui est extrêmement importante pour le futur adulte qu'il deviendra. Ça développe il y a des aspects cognitifs bien entendu. Ça développe cette capacité d'écoute aussi d'autres subtilités. Pour développer l'apprentissage futur des langues, enfin la capacité à entendre des fréquences qu'on n'entend pas spécialement, et notamment parce que le français a une bande de fréquences sonores qui est très étroite, donc il n'entendra pas ça s'il reste configuré ou confiné dans un environnement exclusivement franco-français. Ça va lui développer surtout cette curiosité. Et la curiosité, on sait que c'est le berceau de l'apprentissage, c'est le goût d'apprendre. Et tout cet environnement amène l'enfant à découvrir d'autres sons, d'autres jeux, alors forcément avec les animaux, on va aussi créer des jeux qui vont développer la concentration. Tout ça, c'est extrêmement structurant en fait pour l'enfant, parce que avoir un groupe d'enfants, de 5-6 enfants qui s'assoient et qui écoutent à 2 ans ou 1 an et demi de façon concentrée pendant quelques minutes, c'est déjà énorme pour sa capacité future à écouter les adultes, à rester dans ce type de rapport d'apprentissage. Et on s'aperçoit très vite, entre le début de l'arrivée en crèche et la fin d'une année, c'est une année scolaire quand même, en crèche aussi en fait, jusqu'en juillet, on voit vraiment la différence des enfants qui ont l'habitude d'écouter, de s'asseoir, de s'intéresser, de se concentrer et puis d'interagir avec l'adulte, de ceux qui vont rentrer, sortir et puis en fait ne pas avoir la capacité de se poser quelque part. Voilà, donc ça, c'est un petit clin d'œil de ce que de l'application du numérique en fait en crèche. Une des questions qui nous a été forcément posée par les parents, parce que bon, je vous passe toute l'interactivité avec les parents et la construction de ces dans cette bulle. En fait, dans cette bulle, aussi un point important, c'est qu'il y a une cinquantaine de sons par voyage, par pays, et chaque mois nous partons dans un pays différent, c'est-à-dire ou dans un pays ou dans une région de France, et donc les enfants disposent à chaque fois d'une cinquantaine de sons qu'ils vont donc choisir et qu'ils vont créer, provoquer en tapant sur les parois de la bulle. Au-delà de ça, donc les parents, ça fait 10 ans en fait que nous proposons ce type de d'accueil collectif en crèche avec la bulle musicale. Et donc assez vite, les parents nous ont dit, mais qu'est-ce qui se passe après la crèche? Là, c'est vraiment un acquis qui est important. Et qu'est-ce qui se passe après la crèche? Et du coup, le développement de tout ça fait que nous avons, bien que nous soyons d'abord crèche, pensé en fait à développer la pédagogie pour après la crèche, au-delà de la crèche, donc avec la question de y a-t-il une vie après la crèche, pour que les enfants puissent bénéficier de ces mêmes atouts, de ces mêmes apports qu'ils avaient dans la bulle musicale. Et ça donne lieu à quelque chose que l'on est en train de lancer, et j'ai pas du tout de recul, donc je vous en parle pas plus que ça, mais c'est c'est justement un accès sur Internet du kit pédagogique qui est mis en place dans la bulle musicale. Et puis d'autres aspects aussi qui sont toujours autour de la diversité culturelle, de la découverte aussi des sons. Et donc ça c'est en fait une forme d'ouverture sur le monde et sur l'autre. Nous avons aussi une petite application sur iPhone et sur Android. Mais en fait, fondamentalement, tout cela nous amène... enfin, en tout cas, c'est l'élan qui est essentiel au niveau de notre motivation, c'est le vivre ensemble. Et cette découverte au travers des sons et au travers des différents sens de ce que l'on peut trouver dans d'autres pays ou de ce qu'un enfant peut découvrir dans d'autres pays, ça prépare l'enfant au lendemain, enfin, à ce monde international. Et donc, nous sommes convaincus que ça le prépare aussi, ça développe ce vivre ensemble, cette ouverture sur la différence et ne pas considérer la différence comme une menace, mais au contraire comme une richesse. Voilà, je vous remercie.
Bonjour à tous. Encore une fois, merci beaucoup de cette invitation. Je suis extrêmement sensible à l'honneur qui m'est fait d'être là parmi vous aujourd'hui. Je m'appelle Emmanuel Martin, je suis le délégué général du syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs. Alors, il y a un gros loisir qui clignote comme ça. Ce syndicat regroupe les industriels du jeu vidéo, donc des gens qui font des jeux qui ne sont pas recommandés par le ministère et qui sont vraiment conçus dans des logiques de divertissement, marketés selon des lois que nous a expliqué Madame de la Ville. Et qui regroupe des entreprises que vous connaissez comme Microsoft, Sony, Ubisoft, Activision ou Electronic Arts. Le secteur du jeu vidéo, donc je vais vous présenter une vision un petit peu par le petit bout de la lorgnette, celui des industriels qui ne sont pas forcément les plus rapides à auto-analyser les produits qu'ils sortent sur les marchés et à produire une réflexion sur les impacts qu'ils peuvent avoir en termes sociétaux ou éducationnels. Éducationnels, oui, peut-être. En tout cas, vous savez tous que le jeu vidéo est une industrie extrêmement jeune, hein, c'est une n'est pas très bonne, mais en tout cas, aujourd'hui, on estime qu'à peu près un jeu sur trois qui est vendu en France, enfin, on n'estime pas, un jeu sur trois vendu en France aujourd'hui est un jeu qui est déconseillé au moins de 18 ans par la classification PEGI, donc qui est un jeu qui explore des thématiques tout simplement pour un public averti et qui donc n'est pas à mettre entre toutes les mains. Or, pour expliquer ça à des enfants qui jouent aux jeux vidéo, les parents ne sont pas capables, enfin ne jouent pas avec eux, donc ne sont pas capables de leur expliquer. Les fratries, on va dire qu'ils ont plutôt tendance à leur dire ouais, tu vas voir celui-là, il est super. Le système de pair à pair, on en parlait, Philippe Lemoine l'a brillamment exposé. C'est difficile de faire plus rapide que le système de pair à pair dans le jeu vidéo, puisqu'aujourd'hui, ils vont beaucoup plus vite que nous, tout simplement. Les joueurs vont beaucoup plus vite que les industriels. Donc on a beaucoup de. Enfin, de façon très simple, on n'a pas de moyens vraiment d'expliquer aujourd'hui à nos consommateurs à quel point le jeu vidéo, voilà, tout ce système, le jeu n'est pas forcément à mettre entre toutes les mains. Et là, on s'est dit qu'il y avait peut-être quelque chose à faire avec l'école, puisque le lieu, en fait, de l'éducation à ces nouveaux médias, et aux jeux vidéo en particulier, c'est sans doute dans l'école que se trouve le lieu privilégié dans lequel on va pouvoir avoir une véritable éducation aux médias, et qui soit également, qui puisse également profiter de ce que le média pouvait offrir en termes d'éducation. Donc pour cela, nous travaillons depuis très peu de temps avec les services de l'éducation nationale. Nous sommes sur un embryon de projet qui aurait trois dimensions. L'idée de se dire que le jeu vidéo est une bonne ambassade du numérique pour les primaires, et donc pourrait être à la fois un endroit où on apprendrait le code, se dire que voilà, il y a quelque chose qui est comprendre comment se fait un jeu vidéo, comprendre également comment tous les savoir-faire hein, qui sont en action dans un jeu vidéo, que ce soit le graphisme, que ce soit le scénario, toutes ces dimensions-là, ou le gameplay qui est un métier propre au jeu vidéo, peuvent également intéresser les enfants, et enfin ouvrir sur ce que c'est que la citoyenneté numérique, donc leur donner à la fois les clés pour rentrer dans ce monde du jeu vidéo en toute sécurité, et puis ouvrir après sur les données personnelles dont notre industrie est quelquefois friande, donc leur montrer quels sont les pièges à éviter, et donc leur donner en fait des clés de citoyenneté numérique à travers le jeu vidéo. Donc ce projet est encore une fois au stade d'embryon, c'est un projet qui commence à être discuté, mais ce qui m'intéressait en venant vous parler aujourd'hui, c'est de vous montrer qu'on est une industrie très jeune, on est vraiment en train de prendre en compte ces différents aspects. Alors vous trouverez sans doute peut-être que c'est un peu tard ou qu'on aurait dû s'y prendre dès le début, mais c'est pas facile de faire comprendre à des gens qui sont dans des logiques marketing qu'il y a des enjeux qui sont plus importants derrière. En tout cas, le message que je peux vous apporter, c'est celui d'une grande bonne volonté, en fait, sur ces questions-là, et de vous dire que les industriels du jeu vidéo, aujourd'hui, seront très attentifs à tout ce qu'on pourrait apporter, tout ce que nous pourrions faire comme travail ensemble, pour soit en utilisant le jeu vidéo, soit en le déconstruisant d'une certaine façon, pourrait prendre sa place dans le ludo éducatif. On est quelquefois assez déstabilisé presque au sein de mon syndicat quand on reçoit des enseignants qui arrivent en nous disant j'enseigne les mathématiques grâce à tel jeu ou je me sers de tel dispositif, de telle console pour récupérer des enfants en décrochage scolaire. Nous, c'est des choses qui ne sont pas dans notre prisme aujourd'hui. Mais en tout cas, on est tout à fait prêt à s'engager dans ce style de logique. Et encore une fois, ma présence ici n'a vraiment pas d'autre message de vous dire qu'on sera très attentif et très bienveillant sur ce style de logique. Je vous remercie.
Bonjour. Bonjour à tous, je m'appelle Pierre Lacombe et je suis créateur d'une start-up de jeux, voilà, des jeux audio, à destination particulièrement des enfants. Et j'ai une question pour Claudia. Nous sommes de jeunes étudiants, on démarre un petit peu et on n'a pas encore sorti notre plateforme de jeu. Et la question qu'on se posait, c'était à partir de quand les enfants ont véritablement accès aujourd'hui aux tablettes, aux smartphones et donc aux jeux vidéo. Et c'est quelque chose que nous, on a vécu voilà, en grandissant. Et malheureusement, enfin, c'est pas malheureusement, mais ça, les jeunes y ont de plus en plus accès. Et d'après votre expérience, à partir de quand vous avez vu des jeunes avec des smartphones ou des tablettes ?
Alors, ça commence très très tôt. Alors, pas dans la crèche, puisque vous avez compris, nous, on n'est pas quand même format tablette, etc. Mais dans l'environnement familial, très très tôt. Et une des choses qui m'a toujours amusée, mais qu'on voit de plus en plus maintenant, sont des petits jeunes, des toddlers, souvent, qui s'approchent d'une feuille et puis qui font comme ça. Puis ça ne bouge pas, alors c'est absolument pas intéressant. Donc, quand on leur donne un magazine ou des images, un livre... Voilà, on voit ce geste de plus en plus fréquemment. Donc, la tranche d'âge, c'est en tout cas 18 mois, ça c'est sûr, même avant. Après, est-ce qu'il faut des jeux vidéo pour ces enfants-là ? Ça, je ne répondrai pas à cette question. Mais il y a, oui, il y a certainement, en tout cas, les parents qui mettent ça commence souvent par des petits dessins animés sur une tablette qui sont présentés à l'enfant. Et puis ensuite, dès 2-3 ans, il peut commencer à y avoir une interactivité. En tout cas, l'enfant est réceptif à l'interactivité.
Juste, voilà. Juste pour ajouter un petit truc, moi je ferai une intervention ensuite. Et nous, on a étudié les usages des enfants sur tablette. Ça commence à partir de 6 mois. En fait, ça commence dès la naissance. Les enfants ont une vie numérique grâce à leurs parents. Je ne sais pas si le mot « grâce » est bien choisi. Mais les enfants ont une vie numérique, de toute façon, sur Facebook, avant même la naissance. Et souvent, les premières heures, puisque voilà, les parents publient la photo du nouveau-né. Mais après, au niveau de l'utilisation des tablettes à la maison, c'est à partir de 6 mois à peu près. On verra quelques chiffres tout à l'heure. Question pour le sel. Je ne sais pas si vous m'entendez. Je voudrais savoir si parmi les adhérents du sel, il y a des éditeurs uniquement d'applications jeunesse, donc de jeux ou de ludo-éducatifs, on parlera peut-être du terme. Voilà, si vous pouviez nous indiquer ça.
Non, effectivement. M'entends, pardon. Oui. Non, effectivement, au sein du sel, il n'y a pas d'éditeur qui soit spécialisé dans le ludo-éducatif. C'est même alors, c'est assez paradoxal, c'est même une catégorie qui a disparu des catégories que nous listons, les catégories de jeux, tout simplement quand nous faisons des palmarès de vente ou des choses comme ça. Aujourd'hui, je peux vous dire précisément la part de marché des jeux de course, de simulation, des jeux de tir, des jeux d'aventure. Celle du ludo-éducatif, en fait, aujourd'hui, n'est pas dans le spectre des industriels de jeux vidéo. Oui, c'est autre.
Bonjour, Eric Sanchez, donc enseignant-chercheur à l'Institut français d'éducation à Lyon. J'étais très intéressé par votre exposé sur les représentations des personnes que vous avez interrogées sur le jeu, oxymore ou pléonasme. Et je m'interrogeais sur la validité des résultats en dehors du contexte français, ou autrement dit, est-ce qu'il y a d'autres travaux qui montrent que les représentations sont peut-être différentes dans d'autres pays, au sens où il me semble qu'en France, on hérite de la culture humaniste, on est humaniste d'Erasme, avec l'idée que le jeu puisse être une espèce d'artifice pédagogique pour faire passer des connaissances qui ne seraient pas très appétissantes. Et alors qu'il me semble que dans d'autres pays, notamment le monde anglo-saxon, le jeu est plus utilisé ou introduit dans les pratiques pédagogiques avec l'idée qu'il pourrait lui-même avoir des propriétés pédagogique intrinsèque, et donc plus du côté du pléonasme.
Alors merci de la question, parce que c'est une question que je me pose également. Je manque d'appui, je dirais, à la fois empirique et bibliographique, pour explorer cette question-là à l'étranger. J'ai bien l'intention de le faire, au moins en langue anglaise. Je crois qu'un pays qui est un laboratoire de tout cela, ça reste l'Allemagne. Au sens, il suffit de voir sur les aires d'autoroute, quand on voit une famille allemande qui s'arrête, on voit des boîtes de jeux qui dépassent du coffre, là où les petits Français vont être soit avec des jeux, mais qui sont dédiés à l'enfant et auxquels les adultes ne participent pas. Et dans le game design tel qu'il a été promu par les Allemands, il y a eu l'idée d'avoir des jeux même orientés jeunesse, qui fasse intervenir l'adulte, quitte à ce qu'il perde. C'est-à-dire que faites un jeu effectivement de mémoire avec des enfants, vous n'avez virtuellement aucune chance, sauf entraînement particulier. C'est-à-dire que on a même des jeux dans lesquels on essaie de redonner une chance à l'adulte pour que ce soit un petit peu intéressant pour lui. Donc on a cette tension culturelle, alors peut-être pas spécifiquement française, mais en tout cas très marquée en France, qui consiste à considérer déjà que le jeu n'est pas une activité culturelle. C'est-à-dire, vous prenez les enquêtes de pratique de loisirs, les enquêtes de pratique de loisirs du ministère de la Culture. Alors, peut-être aussi parce que ça n'est pas dans le périmètre du ministère de la Culture. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur ce qui peut être subventionné, etc. On a une question, je crois, qui est est-ce que vous avez joué aux cartes ou au Scrabble ? C'est-à-dire, quand même dans les années 50, dans la représentation de ce que peut être une soirée jeu. Et donc, le fait, par exemple, de sortir au restaurant avec des amis va être considéré comme une pratique culturelle. Le fait de faire une soirée jeu où on va essayer 5 ou 6 jeux différents jusqu'à 2 heures du matin, ça n'en est pas une. Donc, il va y avoir ce hiatus, aussi bien sur le jeu de société que, je pense, sur le jeu vidéo, dans la représentation française qu'on en a. C'est-à-dire, l'idée qu'on a basculé dans le loisir, que ce loisir peut éventuellement être instrumentalisé, comme vous le dites, effectivement, pour rendre plus digeste certains apprentissages, mais qu'il n'est pas légitime en tant qu'élément du paysage culturel. C'est pour ça que l'idée de culture ludique est une tarte à la crème en Allemagne. C'est évident qu'on a de la culture ludique. En France, quand on lance ce mot, on a l'impression d'avoir fait, pour le coup, un oxymore. Ce qui est quand même assez, assez étonnant, dans un pays qui a par ailleurs un vivier de créateurs que le monde entier nous envie. Donc, j'en discutais par exemple avec Dominique Erard, qui est l'auteur de Marrakech notamment, un jeu aujourd'hui de référence. Il est enseignant, il est artiste peintre. Vous faites une double page dans Télérama ou dans les Inrocks sur lui, tout le monde va lire, sauf qu'il est créateur de jeux. Aïe. Et donc, quand Marrakech a été primé en Allemagne, il a eu des retombées presse quasiment dans tous les journaux généralistes allemands, alors que en France, il a eu 3 minutes sur France Inter. On lui a demandé si Marrakech n'était pas quelque chose d'un petit peu néocolonialiste quand même. Donc là, je pousse un peu, mais je m'appuie sur le témoignage de Dominique. Je n'invente rien, mais je pousse un peu le bouchon pour vous montrer à quel point la France ignore ce potentiel-là. Et je connais moins bien le milieu du jeu vidéo, mais je pense qu'il y a des tensions de la même nature dans le rapport aux institutions.
Alors, le jeu de société est particulièrement déconsidéré, mais c'est vrai qu'au sein du jeu vidéo, les créateurs de jeux vidéo sont assez peu reconnus. On a eu David Cage qui a eu la Légion d'honneur l'année dernière. Donc c'était la première Légion d'honneur dans le milieu du jeu vidéo. Donc c'était pour nous une vraie reconnaissance quelque part. Mais c'est vrai qu'il y a une espèce de considération générale. Et puis cette idée effectivement qu'on repart tout de suite dans le domaine du loisir et surtout des enfants. C'est pas très sérieux tout ça.
Juste pour rebondir une seconde, il y a aussi en France l'idée que le jeu, et particulièrement l'offre ludo-éducative, c'est pour les enfants des autres. C'est-à-dire que quand on pose la question à des enseignants, qui réussit le mieux dans votre classe ? Ah bah les enfants d'enseignants. Qu'est-ce que vous faites alors? Enfin, c'est la vieille question de Philippe Mérieux, je n'invente rien non plus là-dessus. Bon, qu'est-ce que vous faites pour que ça ressemble dans votre classe à ce qui se passe autour de votre table de repas ou votre, de, dans, dans votre famille d'enseignants pour que vos enfants soient si performants? Et au final, on constate que les gens auxquels je me suis adressé, c'est-à-dire qui sont un pied dans l'enseignement, un pied dans le milieu du jeu, disent, voilà, des formats ludo-éducatifs, éventuellement, on va se tourner vers certains parce qu'ils sont particulièrement bien, bien fichus. Mais par ailleurs, ce qu'on va faire pratiquer à nos propres enfants, ça va être les jeux qui nous intéressent, nous. Et certains disent, effectivement, je ne m'intéresse pas à cette offre ludo-éducative parce que si jamais il y a quelque chose de bien, de toute façon, je serai au courant, j'ai suffisamment de veille dans mon entourage physique et virtuel pour savoir si quelque chose de bien émerge. Je prends juste l'exemple de Timeline, donc le jeu de Frédéric Henry. C'est un jeu tout simple. Vous avez des cartes et au dos, vous avez la date qui correspond. Il s'agit de recréer une chronologie. C'est un jeu qui a énormément de succès en version papier, en version traditionnelle et en version tablette. Et Frédéric Henry, aujourd'hui, vous le voyez dans les médias, plus sur BFM TV, parce qu'il a fait une levée de fonds de plus de 3 millions de dollars sur son prochain Conan. Et tant mieux. Tant mieux. Heureusement qu'on parle de lui dans ces contextes-là. Mais l'éclairage culturel ou institutionnel sur lui est pour l'instant inexistant, alors qu'il est porteur aujourd'hui d'apprentissage. Le nombre de gamins que je vois qui sont capables de dater des événements qui vont, de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à l'invention du soutien-gorge, puisque vous avez absolument tout dans Timeline en termes d'événements datés, c'est quelqu'un qui apporte à la maîtrise de certains fondamentaux historiques. Là où beaucoup de profs disent on n'arrive plus à faire apprendre des éléments chronologiques parce que l'idée qu'il y a des savoirs relativement rébarbatifs parce qu'il faut les ingurgiter et qu'on ne peut pas réinventer une date, ça on a du mal à faire passer. Et c'est un jeu grand public, vous le trouvez dans n'importe quel point de vente très généraliste, mais la reconnaissance institutionnelle tarde à venir.
Voilà. Non, si. Myriam Propoilvé, j'interviens après comme éditrice numérique, mais là j'ai plus une question en tant que consultante en innovation et maman. Vous avez parlé tout à l'heure de la question du traitement, Monsieur Kairat, du traitement de l'échec et de l'erreur et de l'échec dans le ludo-éducatif. Et aujourd'hui, moi, je suis frappée du grand écart entre mes clients, grandes entreprises ou start-up qui remettent en valeur l'échec dans l'innovation et l'essai-erreur. Il y a des fail parties, on reporte au nu l'échec. Et de l'autre côté, chez les enfants, alors l'échec est de plus en plus gommé. Mon petit garçon, cette année, pour la première fois, est allé à la neige. Et il a pris des cours pour avoir un flocon. Et puis il n'a pas trop bien réussi. Et au moment de la remise des médailles, on lui en a remis une en lui disant tu as gagné la médaille de la deuxième chance. Évidemment, il n'a rien compris. Comment est-ce qu'on fait ce grand écart aujourd'hui dans ce traitement de l'échec ?
Alors, je n'ai pas de réponse pratique. En revanche, j'ai une expérience même d'auteur de jeux et j'ai eu des contacts avec des éditeurs éducatifs justement pour travailler sur des offres ludo-éducatives. Alors comme ça n'a pas abouti et que mes expériences d'auteur de jeux sont globalement des fours, j'en parle avec toute la modestie requise. Ce qui ressort quand on discute avec des équipes marketing chez des éditeurs qui veulent proposer du ludo éducatif, c'est que on a comme demande principale de pas mettre l'enfant en échec, c'est-à-dire que l'échec n'est pas porteur d'apprentissage en soi, alors que précisément la grande vertu du jeu est la possibilité de recommencer à l'identique. Ce format d'épreuve, cette espèce d'aspect protocole expérimental, si vous voulez, qui fait que bon, j'ai raté et donc je peux persévérer. Et donc, il n'y a pas, en tout cas avec les interlocuteurs que j'ai pu rencontrer, je ne prétends pas avoir couvert l'ensemble du champ, il n'y a pas de conception positive de l'échec, alors que par ailleurs, on a une offre du côté du jeu vidéo qui fait intervenir de plus en plus des scénarios dramatiques, qui fait intervenir la question de la tragédie, du jeu à issue tragique, comme réussite, C'est-à-dire que si on a bien joué, ça va mal se finir. Et en gros, si on ne veut pas que ça se termine mal, il suffit de mal jouer. Si je prends des jeux comme Red Dead Redemption ou Elden Ring, ce sont des jeux qui, si on veut que le personnage survive, autant mal jouer. Donc, on a une dimension très paradoxale, parce que parallèlement, si on regarde ce qui se produit du côté de la demande, on a une valorisation très forte des jeux réputés punitifs. On va dire, voilà, tel jeu sur smartphone a un succès gigantesque parce qu'il est très punitif, On a beaucoup de joueurs qui se plaignent de la baisse de difficulté qui est propre à une partie de l'offre de jeux vidéo. Là encore, je ne prétends pas la connaître en totalité. Et qui disent, moi je fais du rétro gaming, c'est-à-dire je reprends des jeux des années 80-90 parce que là au moins on perdait. Et on perdait de façon sèche, c'est-à-dire qu'il fallait recommencer à jouer pendant trois quarts d'heure pour essayer de revenir à peu près là où on était rendu. Alors qu'aujourd'hui, je dirais, un système de sauvegarde quasi automatique ou régulier fait que si on perd, éventuellement si le personnage meurt ou des choses comme ça, on va repartir 3 ou 4 minutes en arrière, ce qui peut être irritant, mais pas vraiment punitif.
Bien. On vous remercie. J'ajouterais peut-être une ou deux remarques liées aux différentes interventions. Effectivement, donc, je disais en début de séance que nous avions choisi d'ouvrir donc, à la rentrée prochaine un portail, une base donc, de données associées sur le jeu, et c'est apprendre avec le jeu numérique. Donc effectivement, apprendre aussi bien avec les jeux, on va dire classique, traditionnel, les jeux de plateau, par exemple, apprendre aussi avec un certain nombre de jeux qui ne sont pas seulement du quiz, parce que bien entendu, en fait, chacun des types de jeux que vous avez évoqués peut renvoyer à de l'exercice, mais les collègues en parleront nettement mieux que moi cet après-midi, mais renvoie à un type d'exercice qui, à certains moments, effectivement, vous évoquiez le timeline et la chronologie, oui, ça fait partie du répétitif, mais la chronologie en soi ne sert pas uniquement à apprendre, c'est votre image du singe savant, des dates et être capable de les débiter pour simplement gagner un pion un petit peu plus loin et réussir, même si on peut trouver une forme de plaisir, etc., dans le côté ludique de la chose. Il y a également donc, tous ces jeux de simulation, tous ces jeux de webquest, par exemple, tous ces jeux de recherche, en fait, qui sont autant de situations d'apprentissage qui mériteraient, je pense, d'être évoquées. Et là, que ce soit un jeu du type exposition sensorielle, je dirais, pour les plus jeunes, que ce soit, et sans négliger, exposition sensorielle avec le numérique et sans le numérique, parce que là, il y a de grandes discussions, que ce soit une exposition donc, aux jeux classiques, aux jeux vidéo, je ne sais pas s'il faut les opposer, le tout en intégrant également des dimensions qui ne seront des contraintes du côté de l'éducation et du jeu à l'école, cette fois-ci, qui sont aussi des contraintes de temps, qui sont des contraintes d'insertion dans la programmation, dans les apprentissages. Voilà, il y a tout un tas. On voit bien que les deux mondes sont soit voisins, soit se croisent, soit... Et il y a là une richesse et des potentialités de rencontres, mais avec des cadres qui sont qui ne s'excluent pas. Hein. C'est ce que je redis souvent cela, à partir d'un même développement, d'une même idée de jeu et d'utilisation du jeu. Il y a des choses qui peuvent se faire à l'école ou dans la continuité de l'école, et puis il y a des développements qui peuvent servir en étant légèrement différents, parce qu'on ne fait pas la même chose, même dans le métier de parent, puisque c'est quand même de cela dont on parle ce matin quand on joue avec ses enfants. Il y a d'autres manières d'approcher des apprentissages qui sont cette fois-ci éducatifs, hein, d'où la question du ludo-éducatif. Mais en tout cas, merci pour ces éléments très très intéressants.